À la suite de ce cantique, nous pourrions lire quelques étapes qui sont devant nous, qui sont devant les croyants, que la parole nous enseigne. Commencerons par la venue du Seigneur, courtement un récit dans l'Épître aux Thessaloniciens, 1 Thessaloniciens 4. Verset 13. Or, nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. 1 Thessaloniciens 4, verset 13. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance à l'égard de ceux qui dorment, afin que vous ne soyez pas affligés comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Si nous croyons que Jésus mourut et qu'il est ressuscité, de même aussi avec lui, Dieu amènera ceux qui se sont endormis par Jésus. Car nous vous disons ceci par la parole du Seigneur, que nous les vivants, qui demeurons jusqu'à la venue du Seigneur, nous ne devancerons aucunement ceux qui se sont endormis. Car le Seigneur lui-même, avec un cri de commandement, avec une voix d'archange, avec la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement, puis nous, les vivants, qui demeurons, nous serons ravis ensemble avec eux dans les nuées à la rencontre du Seigneur en l'air. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc l'un l'autre par ces paroles. La venue du Seigneur Jésus pour enlever l'Église, les siens. Nous lisons maintenant qu'est-ce qui nous attend au ciel lorsque les croyants vont entrer dans le ciel. Nous lisons dans 2 Corinthiens. 2 Corinthiens 5, verset 4. Car nous qui sommes dans la tente, dans notre corps, tente terrestre, nous gémissons étant chargés, non pas que nous désirions d'être dépouillés, mais nous désirons d'être revêtus, afin que ce qui est mortel soit absorbé par la vie. Or, celui qui nous a formés à cela même, c'est Dieu, qui nous a aussi donné les arts de l'esprit. Nous avons donc toujours confiance, et nous savons qu'étant présents dans le corps, nous sommes absents du Seigneur, car nous marchons par la foi et non par la vue. Nous avons dit de la confiance et nous aimons mieux être absents du corps et être présents avec le Seigneur. C'est pourquoi, aussi, que nous soyons présents ou que nous soyons absents, nous nous appliquons avec ardeur à lui être agréable, car il faut que nous soyons tous manifestés devant le tribunal du Christ, afin que chacun reçoive les choses accomplies dans le corps, selon ce qu'il aura fait, soit bien, soit mal. Connaissant donc combien le Seigneur doit être craint, nous persuadons les hommes, mais nous avons été manifestés à Dieu, et j'espère que nous avons été manifestés dans vos consciences. Donc, le tribunal de Christ, qui suit la venue du Seigneur dans laquelle que nous attendons. Un autre verset sur le tribunal de Christ dans l'Épître aux Romains, chapitre 14, verset Romains 14, verset 8. Mais soit que nous vivions, nous vivons ayant égard au Seigneur. Soit que nous mourions, nous mourons ayant égard au Seigneur. Soit que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes du Seigneur. Car c'est pour cela que Christ est mort et qu'il a revécu, afin qu'il dominât sur les morts et sur les vivants. Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Ou aussi, toi, pourquoi méprises-tu ton frère? Car nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu, car il est écrit, « Je suis vivant, dit le Seigneur, que tout genou se ploiera devant moi, que toute langue confessera hautement Dieu. » Ainsi donc, chacun de nous rendra compte pour lui-même à Dieu. Ne nous jugeons donc plus l'un l'autre, mais jugez plutôt ceci, de ne pas mettre une pierre d'achoppement ou une occasion de chute devant votre frère. Donc, deuxième passage qui nous parle du tribunal de Christ. Et puis un dernier passage que nous lisons dans l'Apocalypse, chapitre 19. Verset 6. Les noces de l'agneau, l'événement qui suivra le tribunal de Christ. Verset 6. Et jouit comme une voix d'une foule nombreuse, et comme une voix de grandes eaux, et comme une voix de fort tonnerre, disant Alléluia! Car le Seigneur notre Dieu, le Tout-Puissant, est entré dans son règne. Réjouissons-nous, et tressaillons de joie, et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues, et sa femme s'est préparée, et il lui a été donné d'être vêtu de fin lin, éclatant et pur, car le fin lin, ce sont les justes actes, ou les justes actes des saints. Et il me dit, écris, bienheureux ceux qui sont conviés au banquet des noces de l'agneau. Et il me dit, ce sont ici les véritables paroles de Dieu. Et je tombai devant ses pieds pour lui rendre hommage. Il me dit, garde-toi de le faire, je suis ton compagnon d'esclavage et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Rends hommage à Dieu, car l'esprit de prophétie est le témoignage de Jésus. C'est des versets qui sont bien connus, mais qu'il est peut-être important de revoir dans leurs liens les uns avec les autres. Nous prenons ce premier passage de Philippiens, de 1 Thessaloniciens 4, la venue du Seigneur Jésus. Dans l'Épître aux Corinthiens, il est parlé d'un mystère. Quand le Seigneur Jésus va venir, c'est un mystère. Nous ne pouvons pas expliquer ce qui va se passer, mais simplement retenir les enseignements de la parole. Le Seigneur vient. Le Seigneur vient pour enlever l'Église, enlever tous ceux qui ont cru au Seigneur Jésus, tous ceux qui ont ouvert leur cœur au Seigneur, par la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Tous ceux-là seront enlevés. Il n'y a aucun événement que le monde attend qui précède la venue du Seigneur. La parole ne nous dit pas qu'il y a des événements préparatoires. Le Seigneur Jésus peut venir d'un instant à l'autre. Consolation. Comment ça va se passer? Il nous est dit, verset 16, le Seigneur lui-même Le Seigneur ne va pas envoyer des anges pour enlever les siens. Le Seigneur va descendre lui-même avec un cri de commandement. Ça veut dire que ce cri de commandement, c'est la puissance de Dieu qui va agir pour enlever les siens, pour ressusciter ceux qui sont morts en Christ, premièrement. Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Puis nous, les vivants, nous serons ravis, qui demeurons à la venue du Seigneur, nous serons ravis ensemble. Donc, ceux qui sont sortis des sépulcres et ceux qui sont vivants à la venue du Seigneur seront ravis ensemble à la rencontre du Seigneur dans la nuée. Ça veut dire que le monde ne le verra pas. C'est un acte qui va passer inaperçu du monde. Comme le Seigneur Jésus n'a pas été vu ressuscité. Il a été vu ressuscité des siens, mais pas par le monde. Le monde n'a pas vu le Seigneur Jésus ressuscité. De la même manière, le monde ne verra pas l'Église enlevée. L'Église va être ravie, va être enlevée à la rencontre du Seigneur Jésus. Cri de commandement, voix d'archange. Un archange, c'est un ange, un chef d'ange, qui a autorité sur des anges. Voix de l'archange, trompette de Dieu, trompette va sonner pour le rassemblement. Cette trompette, dernière trompette, il est dit dans l'Épître aux Corinthiens. Nous lançons juste un appel. Y aurait-il quelqu'un qui n'aurait pas l'assurance d'être enlevé à la venue du Seigneur? N'attendez pas d'être en règle avec le Seigneur, d'avoir ouvert votre cœur au Seigneur Jésus, d'avoir cette assurance pour vous-même, si le Seigneur vient ce soir, que vous serez enlevé. Nous serons ravis. Là, ravir, c'est enlever. Ça sera tellement rapide qu'on n'aura pas le temps de se mettre en règle avec le Seigneur au moment où on réalise que le Seigneur vient. C'est trop tard. On sera ravis, enlevés, en un instant, en un clin d'œil. Dans les nuées, à la rencontre du Seigneur en l'air, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. C'est quand même extraordinaire de penser que le Seigneur a pris nos péchés sur la croix. On était tellement précieux pour le cœur du Seigneur, dans le moment où il a donné sa vie, que le Seigneur a pris nos péchés sur lui. Il a tout réglé cette question entre Dieu et nous. Et puis au moment de sa venue, c'est lui-même qui va venir nous enlever. Chaque racheté est précieux au cœur du Seigneur. Un racheté. Le Seigneur a donné sa vie par amour pour lui. Le Seigneur l'enlèvera. Est-ce qu'il y aura quelqu'un qui aura été oublié de cet enlèvement? Aucun. Le Seigneur connaît exactement ceux qui lui appartiennent. Aujourd'hui même. Il sait si tous ici nous appartenons au Seigneur Jésus. Nous serons toujours avec le Seigneur, toujours, pour l'éternité. C'est le Seigneur, celui qui a toute autorité, celui qui désire être le Seigneur de nos vies, déjà aujourd'hui. Est-il le Seigneur de nos vies, le Seigneur Jésus, celui qui nous a tant aimés? Il est le Seigneur. Passons à ce tribunal de Christ, qu'on a lu dans 2 Corinthiens, chapitre 5. Nous allons être manifestés devant le tribunal de Christ. Certainement que la première chose, en entrant dans le ciel, la première chose qui va se passer pour les croyants, c'est justement ce tribunal de Christ. Nous pourrions être un petit peu effrayés de cette pensée du tribunal de Christ. Mais nous désirons lire un verset en introduction dans l'évangile de Jean, chapitre 5. Jean 5, verset 24. En vérité, je vous dis que celui qui entend ma parole et qui croit celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Donc, celui qui a cru au Seigneur Jésus, celui qui a reçu le Seigneur Jésus comme son sauveur, celui qui appartient au Seigneur, il est dit ici, il entend ma parole, il croit celui qui m'a envoyé, que c'est Dieu, le Père, qui a envoyé son Fils, il a la vie éternelle. Ben, il a la vie éternelle. Et il ne viendra pas en jugement. Ça veut dire que ce tribunal de Christ, pour les croyants, n'est pas un jugement. Nous ne serons pas jugés par le Seigneur. Parce que le Seigneur, pourquoi ? Parce qu'il a porté nos péchés. Tout est réglé entre Dieu et nous. Le Seigneur a pris tous nos péchés sur lui. Toute cette question du péché est réglée. Mais nous serons manifestés devant le tribunal de Christ. Nous ne serons pas jugés devant le tribunal de Christ. Nous serons manifestés. Ça veut dire que tout dans notre vie, nous l'avons rappelé dans la prière, tout dans notre vie va passer devant le Seigneur. Pour manifester une chose, la miséricorde dont nous avons été les objets de la part de Dieu. Dieu est miséricordieux. Mais en même temps, tout sera placé dans la lumière. Nous ne pourrons pas échapper à cette lumière divine. Comment voulez-vous qu'on jouisse de la présence du Seigneur dans le ciel, dans la lumière de Dieu, si tout n'est pas en règle avec le Seigneur ? Dans nos relations avec lui, comme croyants. Comment pourra-t-on jouir de Christ et de son amour infini dans la lumière si nous ne sommes pas en paix, en pleine paix dans notre relation avec le Seigneur ? C'est à cause de cela qu'il y a ce tribunal de Christ. Il en va de la gloire de Dieu. Il faut dans la parole. Là, il faut que nous soyons manifestés devant le tribunal de Christ. C'est une nécessité absolue. Sujet très intéressant de lire les « il faut » de la parole. Il faut que le Fils de l'homme soit élevé, qu'il soit mis à mort, qu'il souffre beaucoup, qu'il ressuscite le troisième jour. Il y a un « il faut » qui nous concerne, nous. Il faut que lui croisse et que moi je diminue, évangile de Jean. C'était Jean le baptiseur qui dit cela. Ici, il faut que nous soyons tous manifestés. Tous. Ça sera individuel entre le Seigneur et nous, chacun. Et que va-t-il se passer dans ce tribunal ? Chacun va recevoir les choses accomplies dans le corps. Quelle importance dans notre vie de croyant, quelle importance à notre marche. Les choses accomplies dans notre corps. De quelle manière nous allons vivre notre vie chrétienne? Est-ce que nous comprenons que, appartenant au Seigneur, notre vie chrétienne, elle est à lui, elle est au Seigneur. Le Seigneur désire la conduire, il désire nous enseigner, nous faire marcher à sa suite. Le Seigneur, il nous attire à lui. toutes les choses accomplies dans notre corps. Rien ne sera oublié de ce qui a été fait pour le Seigneur. Un enfant peut servir le Seigneur. Il y a des exemples dans la parole. Prenez ce petit garçon qui, au moment de la multiplication des pains, il avait quoi dans son panier ? 5 pains d'orge et 2 poissons. Et que fait cet enfant ? On l'amène au Seigneur. Cet enfant le donne au Seigneur. C'est un détail qui paraît de peu d'importance. Mais pour le Seigneur, c'est très important. Cet enfant a amené 5 pains d'orge et 2 poissons. Ce sont ces 5 pains et ces 2 poissons que le Seigneur va multiplier. Il y a un autre enfant dans l'Ancien Testament. C'est la fille de Naaman. Fille de Naaman, une jeune fille qui est allée dire à... qui était exilée du peuple d'Israël et qui est venue dire à sa maîtresse que si Naaman était devant le prophète de l'Éternel qui est en Israël, il le délivrerait de sa lèpre. Il était atteint, Naaman et le Syrien étaient atteints d'une lèpre terrible, une maladie incurable. Cet enfant a simplement rendu un témoignage. Si le roi venait devant le prophète qui est en Israël, il le délivrerait de sa lèpre. On aurait pu dire, mais c'est insignifiant ce qu'a dit cette jeune fille. N'empêche que c'est cette parole qui va faire son chemin et qui va être utilisée par Dieu pour amener Naaman devant ce prophète et pour qu'il soit guéri de sa lèpre. On a un verset qui dit « Même un verre d'eau froide donné en mon nom ne perdra pas sa récompense. Un verre d'eau froide donné au nom du Seigneur ne perdra pas sa récompense. » Les choses les plus simples, les plus insignifiantes de notre vie, qui nous paraissent anodines, répétitives, elles ont une grande importance devant le Seigneur. De quelle manière nous faisons les choses? Est-ce que nous introduisons le fait de plaire au Seigneur dans ce que nous faisons? Sur le plan professionnel, pour nos jeunes et moins jeunes qui sont dans un milieu professionnel, là aussi, honorer le Seigneur. On peut faire son travail, bien sûr, pour ceux qui nous ont établis dans le travail, mais on peut le faire pour le Seigneur. Quoi que vous fassiez, faites-le de cœur, comme pour le Seigneur, et non pour les hommes, sachant que du Seigneur, vous recevrez la récompense de l'héritage. Vous servez le Seigneur Christ. La parole élève vraiment le sujet. Chaque journée, sur le plan professionnel, peut être faite de telle manière que nous servons le Seigneur. Tout cela, c'est lié au tribunal de Christ. Ça nous fait réfléchir. Alors, il y aura des choses qu'on a oubliées, qu'on a faites par amour pour le Seigneur. Un enfant, par exemple, dans une famille. Enfant, obéissez à vos parents. Dans le Seigneur, il est dit. Un enfant qui obéit à ses parents, qui le fait de cœur pour le Seigneur, c'est quelque chose que le Seigneur retient. C'est quelque chose qui a du prix pour le Seigneur. Les parents sont appelés à élever les enfants sous la discipline du Seigneur. Mais aux enfants, il est dit, enfants, obéissez à vos parents. Comme au Seigneur. Vous pouvez des fois avoir le sentiment que votre papa ou votre maman se trompe en vous demandant une chose. Mais elle vous a été demandée, c'est le Seigneur qui vous le demande. Et faire cela pour le Seigneur, c'est quelque chose qui a une conséquence, une récompense, quelque chose que le Seigneur retient. Toute notre vie, elle est retenue devant Dieu, devant le Seigneur. Tous nos actes. Un frère âgé nous disait quand on était jeune, tous les moments de notre vie ont une conséquence éternelle par rapport à, justement, ces passages qu'on a devant nous. Il est bien dit, les choses accomplies dans le corps, selon ce qu'il aura fait, soit bien, soit mal. Ça veut dire qu'un croyant peut manquer. Un croyant peut pécher. Ce n'est pas parce que je suis croyant, que j'ai cru au Seigneur Jésus, que maintenant je vais avoir une vie sans péché. J'ai une nature de péché qui n'est pas changée, qui est en moi. Et je fais la misérable expérience que le péché habite en moi, et puis que si je ne suis pas vigilant, le péché reprend sa force en moi. Alors, quelle est la ressource? La confession. Confesse un péché au Seigneur. Et le Seigneur pardonne. Dieu pardonne. Ça n'apparaîtra pas au tribunal de Christ. Les péchés confessés, réglés devant Dieu, pendant le temps de notre passage sur la terre, n'auront pas de conséquences au tribunal de Christ, sinon en bénédiction. Par contre, quelque chose que nous n'avons pas ouvert au Seigneur dans notre vie, un coin sombre de notre cœur qui n'a pas été ouvert au Seigneur ou que nous n'avons pas vu, le Seigneur devra nous le montrer au tribunal de Christ. Certes, nous allons ressentir la perte, nous allons ressentir quelque chose de triste de ce que nous n'avons pas réglé en temps utile, une chose entre le Seigneur et nous. Mais ce n'est pas un tribunal de jugement. Le Seigneur ne nous jugera pas. Le Seigneur nous introduira dans la pleine lumière, dans la pleine jouissance de notre relation avec lui. C'est très encourageant en même temps. Nous ne serons pas jugés par le Seigneur. On ne sera pas dans une relation avec un juge sur un tribunal. C'est le tribunal de Christ. Mais ce n'est pas un juge comme on le trouve dans Apocalypse 20, où les hommes paraîtront devant le grand trône blanc, et c'est le Seigneur qui siégera comme juge. Le tribunal de Christ, c'est notre Sauveur qui est sur le tribunal. C'est celui qui a donné sa vie pour nous. C'est celui qui nous a tant aimés. Qu'est-ce que produit la conscience du tribunal de Christ? Qu'est-ce que cela produit sur nous et sur l'apôtre? L'exemple, c'est l'apôtre. Verset 11. Connaissant donc combien le Seigneur doit être craint. Qu'est-ce que produit le sentiment du tribunal de Christ sur nous? La crainte de Dieu. Le sentiment que toutes choses vont être manifestées devant le Seigneur et que c'est déjà maintenant qu'il nous faut nous préparer. Et il semble que quand l'apôtre dit « Nous avons été manifestés à Dieu », c'est comme s'il disait « Il vivait ce tribunal de Christ déjà dans le temps de sa vie sur la terre ». C'est-à-dire, s'il y avait quelque chose qui s'interposait entre lui et le Seigneur, la chose se réglait tout de suite. Il ne laissait pas passer le temps. Une autre pensée sur le tribunal de Christ qu'on a lu dans Romains, chapitre 14. Nous avons lu à partir du verset 8. Nous vivons ayant égard au Seigneur. Nous mourrons ayant égard au Seigneur. Soit donc que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes du Seigneur. Un verset touchant. Comme croyants, nous vivons en relation, ayant égard avec le Seigneur. Si nous mourons, nous mourrons ayant égard au Seigneur. Nous sommes du Seigneur. Nous lui appartenons. Et puis il est dit un peu plus loin, chacun de nous rendra compte pour lui-même à Dieu. Là, c'est plus le tribunal de Dieu. Le tribunal de Christ dans 2 Corinthiens 5. On peut penser que c'est le même tribunal, mais il est dit ici, ne nous jugeons donc plus l'un l'autre, mais jugeons ceci de ne pas mettre une pierre d'achoppement ou une occasion de chute devant notre frère. La pensée du tribunal de Dieu, qu'on va paraître devant Dieu, est quelque chose qui nous délivre du danger de porter jugement sur nos frères et sœurs. Nous avons une tendance naturelle à juger nos frères et sœurs. Le Seigneur dit dans l'Évangile, « Ne jugez pas afin que vous ne soyez pas jugés. » Ne jugez pas. De la mesure dont vous jugerez, il vous sera mesuré en retour. C'est des paroles qui nous pénètrent. Ne jugez pas afin que vous ne soyez pas jugés. Le danger, c'est de voir le fétu qui est dans l'œil de notre frère et de ne pas s'apercevoir de la poutre qui est dans notre œil. C'est à cause de cela que le Seigneur donne cet enseignement. C'est-à-dire, on a une promptitude à porter même un jugement très juste sur une situation de notre frère. Et on est prêt à le juger à ce sujet. Que le Seigneur nous préserve, nous garde de cet esprit tellement ancré en nous de jugement. Ce qui plaît au Seigneur, c'est le jugement de nous-mêmes. Quelqu'un qui se juge soi-même, qui se juge lui-même, c'est quelque chose qui plaît au Seigneur. Le publicain. Il y avait le pharisien qui priait, puis il y avait le publicain qui priait. Puis le publicain, il dit, il se frappait la poitrine et disait, « Ô Dieu, sois apaisé envers moi, pécheur. Je vous dis que celui-ci rentra chez lui justifié plutôt que l'autre. » Il porte jugement sur lui-même. Il est dans un esprit de repentance, c'est ce qui plaît à Dieu. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas juger. L'Assemblée est appelée à discerner, est appelée à porter un jugement. Le Seigneur dit dans un autre passage de l'Évangile de Jean, « Jugez justement. » On pourrait lire ce verset. Dans l'Évangile de Jean, chapitre 8, verset 24. Juge 8, verset 24. « Ne jugez pas sur l'apparence, mais portez un jugement juste. » Donc, en fait, le Seigneur nous demande de porter un jugement, mais ce n'est pas sur les personnes. C'est sur les actions, c'est sur les actes. Portez un jugement juste. Ne jugez pas sur les apparences. On a toujours tendance à juger sur les apparences. Mais là, dans Romains 14, c'est vraiment le danger de juger nos frères. Ne nous jugeons donc plus l'un l'autre, parce qu'il y avait des différences dans le chapitre 14, des différences par rapport qui ne touchaient pas la question du péché ou du mal, mais qui des habitudes qu'avaient certaines personnes, certains frères, certaines sœurs qui étaient différentes. Il ne fallait pas se juger sur ces différences. Donc cette pensée du tribunal. Nous avons chanté ce cantique 209 tout à l'heure. Il semble que dans ce moment-là, on aura une vision très claire de notre cheminement sur la terre. Très claire. Le Seigneur nous montrera nos mille faux pas. Nous en serons bien convaincus devant le Seigneur. Mais en même temps, nous allons apprécier la miséricorde infinie qui nous a suivis dans tout ce chemin. Le chemin de notre vie, de notre passage sur la terre. Il restera le souvenir de sa miséricorde, de ses compassions. Un amour qui déborde, une pitié qui déborde, une miséricorde qui déborde. Nous avons lu ce dernier passage dans l'Apocalypse 19. On peut dire que c'est encore un acte qui va se passer avant le retour en gloire du Seigneur. C'est-à-dire, le Seigneur va revenir, il vient une première fois pour enlever l'Église, il y aura le tribunal de Christ, il y aura les noces de l'agneau, et puis ensuite le Seigneur descendra pour l'établissement du règne à travers les jugements qui vont venir sur la terre habitée tout entière. L'épreuve qui va venir sur la terre habitée tout entière. Et avant cet événement de la venue en gloire du Seigneur, il va y avoir dans le ciel les noces de l'agneau. Le Seigneur s'est acquis une épouse. Nous lisons cette parabole dans Matthieu 13. Le Seigneur qui a vu une perle de très grand prix dans un champ, et il a vendu tout ce qu'il avait pour acheter cette perle. Il vendit tout ce qu'il avait et l'acheta. Le prix qu'a l'assemblée pour le cœur du Seigneur. Les noces de l'agneau. Le Seigneur va se présenter l'assemblée à lui-même, glorieuse, n'ayant ni tache, ni ride, ni rien de semblable. Éphésiens 5. Le Seigneur va se présenter l'assemblée. Le Seigneur va découvrir dans son épouse quelques rayons de sa beauté à lui. Dire que le Seigneur, dans des vases qui ont été des pécheurs, tels que nous, le Seigneur va manifester cette beauté qu'il voit en elle. Elle est glorieuse. C'est-à-dire, il n'y a rien à redire. Le tribunal de Christ est passé. Toutes les choses sont réglées entre les croyants, entre l'épouse et son époux. Et le Seigneur se présente à lui-même. Le Seigneur, dans sa grandeur infinie, va se présenter à l'assemblée à lui-même. N'ayant ni tache, ni ride, ni rien de semblable. Pas de tache. Pas de rides, pas de vieillissement. Rien de semblable. Elle sera dans une éternelle jeunesse. L'assemblée sera dans une éternelle jeunesse devant le Seigneur. Est-ce qu'il y aura de la joie dans le ciel quand il y aura les noces de l'agneau? Ce verset est touchant, le verset 7. Réjouissons-nous, tressaillons de joie. Tressaillement de joie. Il y a des plaisirs à ta droite pour toujours. Il y aura une joie infinie, une joie indicible qui remplira tous les cœurs. Mais la plus grande joie, ce sera laquelle? La nôtre ou celle du Seigneur? La joie du Seigneur de se présenter à lui-même, cette assemblée, n'ayant ni tache, ni ride, ni rien de semblable. Les noces de l'agneau sont venues. Sa femme s'est préparée. Mais c'est quoi la préparation de l'épouse, là, dans ces versets? Les justes actes des saints. Que restera-t-il de notre vie chrétienne, chers frères et sœurs? Quel encouragement, quelle stimulation pour nous, pour que nous puissions vivre pour le Seigneur? Qu'est-ce qui restera de notre vie devant le Seigneur? Les justes actes des saints. Des justices des saints, ce qui aura été fait pour Christ, ce qui aura eu du prix pour le Seigneur dans nos vies. Le Seigneur y attache du prix. Il en restera le souvenir éternel. On a peut-être ça dans Hébreux 11 avec les croyants de l'Ancien Testament. On a leur foi qui est manifestée dans ce chapitre 11. Il y a bien eu des faiblesses, il y a bien eu des manquements, mais en Hébreux 11, on ne les voit pas. On voit ce que Dieu a opéré, ce que Dieu a fait, ce que Dieu a produit dans les âmes, dans les cœurs. Et la foi est manifestée, et c'est ce qui glorifie le Seigneur. C'est la foi qui est là. Ici, les justes actes des saints. C'est ce qui restera éternellement, le souvenir de ce qui a été fait pour Christ. Que le Seigneur nous stimule, nous fortifie, nous encourage par ses paroles, et en même temps que nous puissions avoir cette pensée du tribunal comme quelque chose qui nous sanctifie dans notre marche chrétienne. Le but de Dieu n'est pas de nous effrayer par le tribunal de Christ. Le but de Dieu, c'est de nous stimuler à nous attacher à Christ et à vivre pour lui. Et à ce que dans notre marche, dans notre vie, il n'y ait pas de zone d'ombre. Nous sentons qu'il peut y avoir des zones d'ombre et nous avons besoin du secours du Seigneur pour juger ce qui doit l'être. Aucune partie ténébreuse, il est parlé dans un autre passage. Que le Seigneur nous accorde cette grâce à tous.